Jean-François Henry, historien ilais, connaît bien l'impact de la Première Guerre mondiale sur notre île. Il a publié « L'île Dieu dans la Grande Guerre ». Et, dans le cadre de l'exposition sur les épaves proposée par l'association Ange au pôle culturel du Petit Chiron jusqu'en novembre, il reviendra sur la guerre sous-marine dans une conférence illustrée au pôle culturel le jeudi 24 juillet à 20h30. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Quand on parle de guerre sous-marine, on pense avant tout à la Seconde Guerre mondiale, aux U-boats et à tout cela. Mais en réalité, les sous-marins, ça remonte à bien avant, en fait, dès la guerre de sécession. Mais c'était quand même quelque chose d'extrêmement nouveau, d'inimaginable presque.
Oui, c'est une arme totalement nouvelle qui pose des problèmes, notamment pour la guerre maritime, parce que les règles sont difficiles à appliquer, notamment pour les combattants qui ne peuvent pas identifier leur cible.
Donc la mort venait de nulle part.
Absolument.
Voilà, quelque chose de terrifiant, mais néanmoins qui n'arrive pas tout de suite, puisque en fait, dans les premières années de la guerre, l'île Dieu est relativement loin des conflits. Donc comment les îlets ont vécu cette première phase de la guerre avant l'arrivée des sous-marins?
Alors je crois qu'il faut parler de deux étapes. La première, c'est la mobilisation. La mobilisation à l'île Dieu n'a pas eu lieu comme dans les campagnes françaises, puisque les marins sont à la pêche au thon. Donc ils ont dû probablement partir de façon échelonnée au fur et à mesure de leur retour de la pêche. Donc au fur et à mesure d'une campagne, ils devaient désarmer et partir. Et comme l'île Dieu était loin des champs de bataille, qui avaient lieu essentiellement, tout le monde le sait, donc dans le nord et dans l'est de la France, l'île Dieu devenait à ce moment-là une sorte d'endroit privilégié pour y mettre des hommes indésirables, c'était le terme qu'on emploie. Donc l'île Dieu est devenue, avec Noirmoutier, le siège d'un rassemblement de toutes les personnes étrangères à la France, en guerre contre la France, et donc il fallait en quelque sorte neutraliser sans les mettre véritablement en prison.
C'était des gens qui, avant la guerre, habitaient en France.
Habitaient en France, ou qui étaient en France, c'est le cas par exemple du fameux Aladar Kuntz, cet écrivain. Lui, c'est un intellectuel qui était en train d'organiser du côté de Carantec des danses bretonnes, qu'il assez frais. Mais il a eu le malheur d'être à ce moment-là, au moment de la déclaration, en France, donc les frontières ont été fermées. Et toutes les personnes de nationalité étrangère en guerre contre la France ont donc été rassemblées et internées en fonction de différents critères. Et donc l'île Dieu comme Noirmoutier ont accueilli dans la citadelle, là où nous sommes, à peu près 400 à 500 personnes.
Et comment s'est passée la cohabitation?
Difficile. Difficile. Alors, difficile entre eux, avec les gens d'île Dieu un peu particulières parce que normalement ils ne sortent pas. Et ça a entraîné notamment des problèmes économiques parce qu'il fallait à la fois les nourrir. Là, il y a eu un petit peu de rivalité entre les différents fournisseurs. Et puis, il fallait aussi vivre avec. Et ce n'était pas si simple.
Pendant cette période-là, il y a aussi des gars de l'île Dieu qui sont donc allés au front et qui ont parfois, pour certains, connu des destins un peu particuliers. Et notamment, je pense que c'est la bonne occasion de parler de Benjamin Choviteau qui est le premier îlet à avoir volé.
Alors, probablement. Donc Benjamin Choviteau, c'est un cas emblématique dans ce sens qu'il est marin. Au début de la guerre, les hostilités sont essentiellement terrestres. Donc on a plus besoin de soldats que de marins. Donc il est engagé dans les fusiliers marins et il fait la bataille de Dixmude. Puis il est à ce moment-là recruté pour devenir aviateur puisque l'aviation commence à devenir une arme intéressante, même s'il n'y a pas d'armée de l'air. Elle n'existe pas encore, mais on commence à la constituer, et notamment à Rochefort. Donc, notre Benjamin va à Cazaux, près de Bordeaux. Il devient mitrailleur sur des avions-canons, et il fait la bataille de Verdun. Et troisième partie de sa vie, il retourne dans son arme d'origine, c'est-à-dire la marine, et il commande donc un dindé dans les convois qui devaient surveiller donc les allées et venues le long du golfe de Gascogne. Et malheureusement, il décède un mois avant l'armistice, puisque son bateau a été coulé.
Par un sous-marin, non?
Par un sous-marin, effectivement.
Qu'est-ce qui a produit l'arrivée des sous-marins? Pourquoi d'un seul coup, à partir de 1917, on voit arriver des sous-marins à côté de l'île Dieu?
Eh bien parce qu'il y a ce qu'on appelle l'année trouble, c'est-à-dire 1917. Des deux côtés, les troupes sont épuisées et il y a un besoin essentiel de régénération. Alors, il faut savoir que les Russes donc, sortent de la guerre, Donc, les Allemands n'ont plus qu'un seul front, c'est le front français. Et entrent à ce moment-là en guerre les États-Unis. Donc là, il y a une sorte de course contre la montre entre les deux puissances, c'est-à-dire qu'il faut que la France puisse accueillir le plus vite possible les États-Unis avant que l'Allemagne mette tout le paquet sur le front français. Donc là, notamment, besoin de troupes et besoin aussi de ravitaillement en matériel. Et ça, c'est essentiel. Et la guerre a failli basculer à ce moment-là parce que les convois avaient du mal à parvenir. Et donc, l'amiral allemand von Tirpitz déclare la guerre sous-marine à outrance. Et donc, le but, c'est de couler tous les navires qui venaient soit du Nouveau Monde, des États-Unis, soit des colonies françaises, donc d'Afrique. Et donc, ce qui fait la richesse de l'île-Dieu devient sa faiblesse, c'est-à-dire que l'île-Dieu est au cœur même du centre de la façade atlantique, notamment tous les convois qui vont vers Saint-Nazaire et qui deviennent des cibles favorites.
Pourtant, les sous-marins allemands sont également attaqués à de simples bateaux de pêche. Pourquoi ?
Alors, ils se sont attaqués aux bateaux de pêche. Le cas est un peu particulier parce que, alors, il y avait aussi des bateaux pièges. Donc, c'est-à-dire des bateaux qui étaient donc devaient attirer donc les sous-marins et devaient exploser face aux sous-marins. Donc, ils avaient très peur de cela. Et il fallait aussi psychologiquement attaquer le mental. Parce que le fait d'attaquer les bateaux de pêche, c'était aussi raréfier la possibilité aux Français de s'alimenter de façon correcte, etc. Donc, vous voyez, il y a à la fois un problème de défense face aux bateaux pièges et aussi face psychologiquement à l'alimentation de la population.
Donc, la mer, à cette époque-là, devenait un lieu extrêmement dangereux sur lequel circuler, et pas seulement à cause des sous-marins, il y avait aussi des mines, me semble-t-il.
Alors, le sous-marin attaque de trois façons. Soit il dépose des mines sous-marines, soit il envoie des torpilles, soit il mitraille. Car il faut savoir qu'à cette époque-là, les sous-marins n'ont pas une grande autonomie en profondeur, donc ils sont très souvent en surface. Et donc, à ce moment-là, ils peuvent très bien mitrailler depuis leur bateau. Donc, vous voyez, c'est les trois faits qui font que la mer devient un endroit extrêmement dangereux. Et l'île-Dieu voit des mines qui dérivent. On en a une particulièrement, par exemple, qui va exploser là où se trouve le parking de l'hélicoptère, qui à ce moment-là était directement devant les usines. Et là, il y a une mine qui va exploser, une mine en dérive, et il faut savoir que l'explosion va faire carrément sauter la toiture de l'usine Bouëflon.
C'était pas de la petite mine.
Ah non, c'était quelque chose d'extraordinaire.
Pour revenir plus particulièrement sur le thème des épaves, il y en a une qui a particulièrement marqué, c'est l'épave du Sequana. Pourtant, on s'en souvient moins que, par exemple, l'Himer, le bateau norvégien. Pourquoi est-ce que le Sequana a globalement été oublié jusqu'à assez récemment ?
Alors, c'est vrai que si on devait rester au fait essentiel de la guerre, on retient à l'île-Dieu, donc au mois de janvier, le drame de l'Himer, et au mois de juin, celui du Sequana. Le drame de l'Himer, c'est un drame épouvantable qui est lié à un problème d'un bateau neutre, puisque les Norvégiens étaient neutres. Ce bateau était au large de Rochefort et il a été donc coulé par des Allemands qui, au préalable, avaient fait débarquer l'équipage dans deux baleinières, une avec le capitaine et une autre avec le lieutenant. Celle du lieutenant a dérivé au large de l'île-Dieu et c'est le sauvetage qu'on peut dire en partie raté de l'Himer, pour quantité de raisons, qui fait que le Paul Toureil a dérivé jusqu'à Ragnes en faisant 11 morts, donc 6 marins de l'île-Dieu et 5 Norvégiens. Donc ce drame a profondément marqué la population ilaise, puisqu'elle a fait de nombreux orphelins, parce que les journalistes de l'époque en ont fait un écho extraordinaire, puisqu'on a plusieurs pages dans l'illustration, avec des photographies, on a quelque chose de pathétique. Tandis que, beaucoup plus tard, le Sequana se passe donc... Alors, ce qui a contribué aussi, excusez-moi, à la pérennité de l'événement, c'est que les Norvégiens ont été extraordinairement reconnaissants en se déplaçant tout de suite, dès que possible, en venant à Lisieux, notamment avec le baron de Wedgersberg, et aussi en récompensant, en indemnisant les familles et en dressant donc une stèle par le meilleur sculpteur de l'époque, qui est Stefan Sinding. Donc, en quelque sorte, il y avait tout pour que la mémoire se fonde autour de cet événement, touché dans le cœur, mais aussi marqué dans cette place qui devient, en quelque sorte, le monument aux morts habituel sur une place publique, en dehors de celui qui est dans le cimetière. Sequana, c'est à l'autre bout de l'île. C'est un paquebot qui vient de Dakar, avec donc des troupes de tirailleurs sénégalais. On sait depuis que le terme tirailleurs sénégalais ne correspond pas exactement au Sénégal. Ce sont plusieurs pays, plusieurs ethnies. Bon, et ce bateau a été coulé donc par de nuit au large des Vieilles. Mais il n'y a aucun îlet à bord. Et malheureusement, les 208 victimes ont dérivé, les corps ont été emportés par le courant et il n'y a pas de tombe dans le cimetière de Lisieux qui rappelle ce drame. Donc, à l'autre bout de l'île, ne concernant pas d'îlet, pas de traces concrètes du drame, eh bien, l'Imer a pris le dessus et a contribué probablement à ce que le Sequana soit oublié.
Et est-ce que le fait que ça ait concerné aussi des populations colonisées, ça a pu jouer également dans cet oubli ?
Sans doute, mais je crois surtout c'est que ça ne touchait pas la population. Je pense que si on avait eu un carré de, par exemple, 30 ou 40 corps enterrés dans la cimetière de Port-Joinville, je pense que la mémoire aurait été beaucoup plus marquée. Tandis que là, il n'y a pas de traces, si vous voulez. C'est ça qui est important. Je pense que le monument de la Norvège, donc placé au cœur même de Port-Joinville, a contribué de façon considérable à cette mémoire, car malheureusement, la société de sauvetage a eu d'autres drames, peut-être pas aussi prégnants, mais d'autres drames, d'autres victimes. Mais ce monument a contribué à sceller en quelque sorte une mémoire de façon très vive.
Heureusement, maintenant, il y a également un monument pour le Sequana.
Alors, ça a été un peu la conséquence de ce travail qui a été fait de rappeler ce qui s'est passé à Lisieux, et c'était la demande du maire Bruno Nourry que de faire en sorte que ces tirailleurs sénégalais ne soient pas oubliés. Et le monument érigé par Casper est remarquable d'émotion et de symbolisme.
L'exploration de ces épaves, qu'est-ce que ça nous a appris sur ces drames? Est-ce que ça nous a donné des nouveaux éléments?
Pas véritablement, parce que si vous voulez, alors sans doute pour eux, mais le Sequana était un bateau qui était connu. Donc, si vous voulez, c'est plus eux, dans leur domaine de recherche, voir ce que l'on peut sauver. Je crois, mais ça, je m'avance peut-être un peu, mais je pense que ces épaves-là, il est grand temps de les filmer, de les répertorier et autres, parce que malheureusement, la mer est là pour effacer aussi cette mémoire. Donc, si vous voulez, pour moi, il y a un vrai symbolisme. Il y a deux tragédies. Il y a la tragédie du drame en lui-même, et la deuxième tragédie qui serait d'être englouti dans une sorte d'oubli. Et c'est notre rôle, grâce aux plongeurs qu'on n'avait pas, par exemple, il y a 70 ans, hein, d'apporter des images extraordinaires pour que, vous savez qu'on n'a pas le droit de déplacer donc ces épaves, hein, elles sont en l'état, et donc de faire en sorte que, malgré l'érosion naturelle du temps, elles soient sauvegardées. Et c'est un très bel hommage que ces plongeurs nous donnent en nous communiquant ces documents exceptionnels.
Cette exposition permet également de maintenir ces mémoires et de les renouveler par justement toutes les images produites par cette association.
Voilà, et elles viennent en complément ou en lien avec le travail qui se fait à travers les archives, puisque nous, c'est plus des documents, événementiels qui vont être relatés.
Plein de bonnes raisons d'aller voir l'exposition Ange au pôle culturel du Petit Chiron, donc jusqu'en novembre. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur cette guerre sous-marine, sur ses conséquences, sur ses naufrages, n'hésitez pas à aller voir donc la conférence de Jean-François Henry ce vendredi 24 juillet à 20h30 dans l'auditorium du pôle culturel du Petit Chiron. Merci beaucoup Jean-François.
Bonsoir.